à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. Votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Le meurtre violent de la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei par son compagnon kényan a suscité une condamnation générale. Deux autres athlètes kényanes ont été tués en 2021 et 2022 par des proches. Aucun pays ni continent n'est épargné par la violence visant les femmes. 3750 femmes ont été tuées au Mexique en 2021. Plus d'un quart étaient des féminicides, c'est-à-dire des meurtres ciblant intentionnellement des femmes. Selon un rapport onusien, dans la nuit du 1er au 2 septembre, 268 des 348 femmes détenues à la prison de Makala en République démocratique du Congo ont été victimes de viols et autres violences sexuelles lors d'une tentative d'évasion meurtrière. 17 des survivantes avaient moins de 19 ans. De telles violences contre les femmes détenues se sont également produites en 2020 à Lubumbashi. Alors comment prévenir les meurtres et violences sexistes et sexuelles? Les gouvernements en font-ils assez pour éradiquer les violences et meurtres basés sur le genre? Et que faire notamment pour inciter les témoins et victimes à dénoncer ces violences? Nous avons comme invité Chantal Yelou, conseillère spéciale du président de la République démocratique du Congo, en charge de la jeunesse, des violences basées sur le genre et de la traite des personnes. Chantal, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Merci à vous aussi de m'avoir invité.
Alors, je ne sais pas si nous avons déjà, oui, effectivement, Maïmouna Youssoufa également, qui est humanitaire. Elle intervient dans la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre au Cameroun, notamment dans le cadre d'un programme national de protection sociale. Maïmouna, merci également d'être avec nous. Maïmouna, est-ce que vous m'entendez?
Bonjour Nathalie.
Merci.
Bonjour à vos invités. Je suis ravie d'être parmi vous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dans un premier temps, je vais m'adresser tout de suite à Chantal Yelou, hein, pour parler de ce drame terrible, hein, donc dans la prison centrale, hein, donc à Kinshasa, toutes ces femmes qui ont été violentées. Est-ce que vous pourriez faire le point rapidement sur cette situation? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je crois qu'il y a eu une enquête pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, mais pourriez-vous nous dire où en êtes-vous aujourd'hui?
Oui, pour le moment, on passe dans l'étape des procès. Il y a plusieurs procès qui sont en train de passer. Les femmes sont en train de dénoncer ce crime ignoble. Elles sont en train de parler. Il y avait des femmes qui se sont fait violer par 10 hommes. Le président de la République, il est extrêmement concerné par cette situation. Il ne faut pas oublier qu'il est le champion de la masculinité positive. Il n'y a pas longtemps, en 2021, il avait prononcé la tolérance zéro au niveau national. Et on a plusieurs lois qui ont été mises en place. Premièrement, il faut savoir que le viol est un crime punissable et répréhensible par rapport aux lois de la République démocratique du Congo. Et ces gens-là, les bourreaux, ils ont profité de la vulnérabilité de ces femmes qui étaient emprisonnées et qui étaient déjà en position de faiblesse pour pouvoir venir et pouvoir les commettre ce crime-là, commencer à les violer. C'est ce qui s'est vraiment passé. Mais de l'autre côté, nous avons eu la première ministre qui a rendu visite avec le ministre de la Santé. Alors, on sait déjà qu'il y a une prise en charge côté holistique qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire la prise en charge de santé. Il y a la prise en charge du côté juridique, hein, parce qu'elles sont soutenues par les ADEL, un ONG, et ils sont aussi soutenus par différentes associations, sociétés civiles qui prônent la cause de la femme. Et il y a aussi, la prise en charge, c'est que nous on est en train de vouloir suivre si elles ont eu la prise en charge psychologique, c'est vraiment important. Prise en charge de santé, on sait que ça a été fait. La prise en charge juridique est en train de se mettre en place, mais le côté psychologique, c'est ça qui nous concerne. Mais on voit de plus en plus le mouvement des femmes congolaises partout dans le monde, que ce soit de la diaspora, que ce soit dans les provinces, que ce soit ici à Kinshasa, elles sont toutes concernées. Demain, je pense qu'il y aura une manifestation où elles vont amener des denrées non périssables à nos victimes et aux femmes qui sont dans la prison. Il y a des associations comme les Femmes Solidaires, il y a le mouvement de lobbying des femmes qui s'y mêlent, le G100 qui est en train de se mettre. Toutes les femmes se mettent ensemble maintenant pour pouvoir apporter leur pierre pour en finir avec cette histoire qui s'est passée. Mais les bourreaux doivent être condamnés. Ils vont être condamnés à 20 ans au minimum de prison parce que la loi le dit.
Alors on va revenir sur ces questions-là. Chantal Yelou, restez avec nous. Et avant de me retourner vers Maïmouna Youssoufa, je voudrais qu'on écoute Maître Alimatou Camara. Elle est guinéenne, c'est une avocate des victimes du procès du stade du 28 septembre 2009. On l'écoute.
Les gouvernements ne font pas malheureusement assez pour protéger les femmes et les filles de ces violences. Je crois que partout dans le monde, effectivement, les violences à l'égard des femmes restent encore une problématique. Mais il est désolant, en fait, de constater que dans la plupart de nos États africains, les mécanismes, ou en tout cas la chaîne de protection qui existe, est très faible. Lorsque vous prenez le cas de Rebecca Cheptegei, vous vous rendrez compte qu'elle a déposé plusieurs plaintes individuelles qu'elle était certainement en danger et la police n'a pas pris ses alertes au sérieux. J'ai écouté sa mère. Le témoignage est assez déchirant parce qu'elle estime que sa fille n'a pas bénéficié de suffisamment de protection. Je crois qu'il est temps quand même qu'il y ait une réponse adéquate à ce type de violence où plusieurs femmes et filles laissent leur vie, laissent derrière elles des familles déchirées et une société complètement traumatisée. Et ces réponses-là ne peuvent venir que de l'État en renforçant la chaîne de protection, en faisant en sorte que nous ayons des mécanismes qui existent dans certains pays francophones, dans certains pays anglophones, des ordonnances de protection. Ce type de mécanisme serait plus à même de protéger les femmes et les filles.
Maïmouna Youssoufa, vous travaillez dans la prévention et la réponse, hein, donc par rapport aux victimes, aux femmes victimes de violences. Vous travaillez notamment avec des réfugiés, des personnes déplacées. On sait qu'il y en a de nombreux, notamment au Cameroun, et les ménages pauvres. Vous avez entendu Maître Alimatou Camara au niveau de la chaîne de protection. Qu'est-ce qu'il est prévu justement au Cameroun au niveau de la prévention et de la protection donc des potentielles victimes?
D'accord, merci beaucoup. Merci à vos différents intervenants pour leur intervention très enrichissante. Déjà, je voudrais commencer par rappeler que pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu des attaques dans la région anglophone, donc dans le nord et sud-ouest du Cameroun, où deux femmes ont perdu la vie, dont nous les classons parmi les nombreux féminicides que nous enregistrons. Donc, il y a une ONG, la Griotte, qui milite pour les droits des femmes, qui a fait un rapport hier qui souligne que depuis janvier 2023, nous avons enregistré une soixantaine de femmes assassinées sous le coup de leur mari. Alors, au niveau des textes de loi, il n'y a pas vraiment un texte de loi spécifique qui réprime les auteurs de violences basées sur le genre. Mais heureusement, les communautés travaillent à prévenir cette violence-là. Donc, à notre niveau, nous faisons beaucoup de sensibilisation sur les causes et les conséquences des violences faites aux femmes. C'est vrai que ça ne suffit pas. Donc, nous avons, à notre niveau, un formidable réseau de femmes, d'organisations locales de femmes, qui militent en faveur du respect des droits des femmes. Nous sensibilisons également les hommes parce qu'ils sont les principaux auteurs de ces violences-là, les violences des partenaires intimes principalement. Donc nous travaillons avec eux pour changer la masculinité, le nouveau concept de masculinité positive que l'on sur les réseaux sociaux dont nous avons commencé à l'implémenter il y a longtemps.
Merci beaucoup Maïmouna Youssoufa. Je voudrais qu'on écoute à présent un auditeur de VO Afrique, c'est Jean-Louis, il est au Rwanda à Kigali. On écoutera tout de suite après une web activiste, c'est Fatoumata Chérif qui elle est en Guinée. On commence par Jean-Louis.
Il y a un problème d'omerta. La société en général fait profil bas quand il y a de la violence dans un couple. Certaines épouses sont convaincues que la violence qu'elles endurent a pour origine leur propre action. Nous avons la police nationale avec le One Stop Center où en cas de violence, toutes les preuves peuvent être collectées. Il y a une ligne dédiée pour faire des plaintes. La société est éduquée en permanence pour éviter de tels actes.
Les féminicides sont devenus un fléau récurrent. Quel que soit le continent, on les retrouve un peu partout sur la planète. Les femmes, quelle que soit leur race, leur statut social, leur force physique, leur cursus universitaire ou même leur statut matrimonial, en sont victimes.
Il faut que les femmes soient alertes, qu'elles sachent comment détecter les premiers signes de féminicide. Il y a des signes qui sont annonciateurs. Les femmes doivent pouvoir détecter cela et savoir dire non au moment venu, se protéger et aussi que les législations permettent aux femmes de porter plainte. Parce que souvent, à cause de la culture, les femmes n'arrivent pas du tout à se prononcer sur certains sujets. J'aimerais lancer un appel aux conjoints, aux ex-conjoints. Ce combat est commun. C'est du he for she. Si nous voulons nous battre pour les droits de l'homme, nous devons savoir que la vie de l'autre compte en fait. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui votre relation n'est plus comme avant que vous pouvez vous permettre de lui porter atteinte physiquement. Nous sommes dans un contexte où les droits humains doivent être respectés. Je lance un appel également à l'État de respecter les différentes conventions et qu'il y ait des services sociaux qui prennent en charge mentalement les femmes victimes de ces violences et surtout faire en sorte qu'il y ait peut-être des ateliers qui permettent aux hommes et aux femmes de savoir leurs limites en fait, où on doit s'arrêter, qu'est-ce qu'on ne doit pas franchir comme limite pour respecter les droits de l'autre.
Alors Chantal Yelou, à propos pour revenir sur cette affaire de violence contre des femmes dans la prison à Kinshasa, on sait qu'en septembre 2020, une émeute à la prison de Kazapa-Lubumbashi avait provoqué un incendie dans la section des femmes qui avait forcé les prisonnières à rester dans la cour pendant 3 jours sans aucune protection de l'administration pénitentiaire. Et durant ces 3 jours, des hommes détenus ont violé des dizaines de prisonnières, dont une adolescente. Ça date de 2020. Je crois qu'il y en a eu d'autres après, ou du moins au moins une fois. Et la question qu'on se pose ici, c'est pourquoi les femmes sont-elles encore finalement dans des prisons communes avec des hommes et notamment des enfants. On parle aussi d'adolescents.
Oui, ça c'est vraiment un grand problème qu'il y a ici, mais je pense que c'est dans certains pays africains aussi, où il y a un grand nombre de prisonniers qui se retrouvent dans les prisons centrales, comme on dit. Et dans chaque ville, il y a une prison qui est une prison centrale où on mélange et les hommes et les femmes et les enfants. Mais on a la chance que le gouvernement est en train de mettre en place de travailler, je pense que c'était déjà avec le gouvernement passé, où il était en train de mettre un programme pour pouvoir faire sortir les femmes de prison ou des prisons où il y a les femmes et les hommes et mettre en place des prisons pour femmes. Et là, on est en train de travailler là-dessus très, très fort. C'est dommage que tous ces incidents sont arrivés, mais ce qui est plus important, c'est de pouvoir vite travailler dans le short term. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sécuriser les femmes pour le moment. Toutes les femmes qui sont dans les prisons centrales, les sécuriser, qu'elles soient protégées par un service de sécurité qui est composé des femmes, s'il vous plaît, parce qu'elles vont mieux comprendre la douleur des femmes, la situation de la femme. Et il faut aussi renforcer la capacité de ces surveillants qui sont là-bas et de mettre surtout un système de caméra ou de vidéo pour qu'on voie exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que ces femmes, elles se sont fait violer de 1h du matin jusqu'à 6h du matin sans aucune surveillance.
Alors écoutons à présent un Congolais, c'est Christian Politassi, il est avocat, maître Christian Politassi, et tout de suite après on reviendra au Cameroun pour écouter Catherine Lélia qui est notamment cofondatrice de l'ONG Save a Child et elle est juriste. Écoutons d'abord Christian.
Il faut de mesures concrètes visant tant à protéger la personne des victimes mais aussi à sanctionner les bourreaux tout en créant des situations qui viseraient bien évidemment à prévenir la survenance ou encore la récidive. De ce fait, il faudrait une meilleure prise en charge des victimes pour que ce dernier ne se sente pas délaissé. Deuxièmement, il faudrait des sanctions exemplaires à l'encontre des bourreaux. Cela jouerait automatiquement un effet sur les bourreaux, mais aussi sur toute personne qui pourrait avoir même l'intention de poser ce genre d'actes. Et troisièmement, c'est la disponibilité de certains numéros pour pouvoir faciliter la dénonciation. C'est une situation qui écœure plus d'une personne. Les femmes dans l'est du Congo souffrent de cette situation. Parce que hier, nous avions toléré cet état de choses. Hier, nous avions fermé les yeux. En tout cas, il faudrait que cette condamnation soit unanime, totale et ferme. De cette manière, les bourreaux ne pourraient en aucun cas répéter ce genre d'actes.
Je pense premièrement que la famille a un très grand rôle à jouer à ce niveau, dans la mesure où, dans l'éducation de la jeune fille, les parents doivent mettre l'accent sur l'indépendance financière. Pourquoi je le dis? L'on remarque que majoritairement, les femmes victimes de violences sont la plupart du temps vulnérables financièrement, d'où bien qu'elles aient la volonté de vouloir partir, elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas de soutien, parce qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement. Elles se retrouvent en train de tout subir par peur d'être lâchées, d'où je soulève l'importance de l'éducation dans la vie de la jeune fille. Deuxièmement, les parents devraient accompagner leurs enfants afin que celles-ci ne soient pas exposées à ce fléau-là. Montrez que vous aimez vos enfants. Participer à leur épanouissement personnel. Et je pense que ce fléau, à la longue, sera aboli. Deuxièmement, l'État, la société, les autorités compétentes ont un très grand rôle à jouer à ce niveau. Dans la mesure où, bien que des mesures drastiques existent dans le but de protéger la femme, celles-ci ne sont pas effectives. Et ça, c'est un grand problème. Parce qu'on se retrouve en train d'avoir des femmes qui meurent. L'État doit jouer son rôle. L'État doit rendre ces mesures qui ont été prises effectives.
Maïmouna Youssoufa, vous avez entendu Catherine, donc les liens que vous connaissez, n'est-ce pas, au Cameroun. Elle parle finalement de l'indépendance financière et elle dit remarquer que finalement ces violences se produisent surtout donc dans les milieux défavorisés. Est-ce que c'est une observation que vous faites également, comme vous travaillez avec les ménages pauvres, le fait que finalement dans certains ménages pauvres, les femmes seraient victime de violence.
Allô?
Oui, Maïmouna, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends pas très bien.
Oui, est-ce que vous avez entendu ma question?
Oui, j'ai entendu une partie de la question.
Voilà. Donc, au niveau de l'indépendance financière, pour éviter en quelque sorte les violences basées sur le genre, qu'est-ce que vous auriez à dire dans le milieu dans lequel vous travaillez?
D'accord. Principalement, nous travaillons à apporter des transferts monétaires sociaux aux ménages les plus vulnérables du pays. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous choisissons la femme comme personne de référence pour recevoir de l'argent pour l'usage des besoins du ménage. Cette situation provoque beaucoup. En pensant apporter l'indépendance financière à la femme, il se crée un problème. Donc, il y a un déséquilibre des rôles déjà qui s'installe parce que nous savons que dans nos communautés, les hommes sont les principaux pourvoyeurs. Donc, lorsque ce pouvoir économique est donné à la femme, l'homme n'est pas préparé à voir le changement de statut social, le changement de pouvoir qui intervient dans le ménage. Généralement, il y a un mécanisme de réaction négatif qui se manifeste par les violences des partenaires intimes. Donc, nous enregistrons pas mal de cas de violences physiques, de violences psychologiques ainsi que de dénudes de ressources. Il y a des hommes qui s'accaparent des transferts reçus par les femmes parce qu'ils ont peur de la voir se libérer de son joug. Donc, à ce niveau, nous faisons beaucoup de sensibilisation sur la budgétisation partagée pour que les ressources qui sont introduites au sein du ménage soient l'objet de discussions, de dialogues consensuels entre les deux parties, afin que son utilisation soit faite au service des besoins du ménage.
Merci beaucoup Maïmouna Youssoufa. J'avoue que c'est vraiment très intéressant hein, cet angle-là finalement, la question financière et le fait de donner une responsabilité financière aux uns et aux autres et de pouvoir partager cette responsabilité, bien entendu sans violence. Écoutons à présent Sena Dodzi Kwadjo, c'est un auditeur de VOA Afrique, il est au Togo et tout de suite après on écoutera Aïda Walaté qui elle est la présidente de Justice et Dignité des femmes du Sahel. Écoutons d'abord Sena Dodzi.
Qui commet ces violences ou les meurtres féminicides, c'est la population. C'est parmi la population elle-même qu'il y a des criminels de tout genre. Les témoins n'ont aucune garantie de protection de leurs droits. Pour avoir le courage de dénoncer les acteurs de ces crimes, il faut une protection des témoins pour que les témoins puissent avoir le courage de dénoncer ces genres de choses avant qu'ils se réalisent. Parce que dans nos communautés, dans nos villes, dans nos villages, quand quelqu'un est sur le point de commettre ces genres de choses, il y a des signes qui montrent. Donc, seul un de ses cohabitants pourra aller vers les autorités pour le dénoncer. Donc, le gouvernement doit miser sur la protection des droits des témoins pour que les témoins aussi puissent avoir le courage de dénoncer.
Il est essentiel de renforcer les cadres juridiques en adaptant et en appliquant des lois strictes contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cela nécessite la formation des forces de l'ordre et des juges pour traiter ces cas encore plus avec sérieux. Ensuite, des programmes de sensibilisation doivent être lancés à l'échelle mondiale pour changer les mentalités sur la violence basée sur le genre spécifiquement faites aux filles et aux femmes. Les écoles, les communautés et les médias ont un rôle crucial à jouer. Les leaders communautaires, religieux et traditionnels doivent également s'engager activement dans cette lutte car leur influence peut changer les perceptions et comportements. Un investissement massif est nécessaire pour soutenir les survivants de violences basées sur le genre en leur offrant des refuges et des services d'accompagnement, y compris des soins médicaux et psychologiques. Enfin, la collaboration est essentielle. Les organisations doivent travailler avec les gouvernements et les ONG locales pour développer des stratégies adaptées aux contextes locaux. Les féminicides sont un problème systématique qui nécessite une réponse immédiate et coordonnée à l'échelle mondiale. Nous avons la responsabilité de protéger les droits des femmes et de créer un environnement où chaque femme et fille peut vivre sans peur.
Chantal Yelou, vous êtes également donc experte en ce qui concerne la traite des personnes et l'on sait malheureusement que dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a encore cette violence armée et l'on sait que de nombreuses femmes sont victimes de violences, des enfants également. On a toujours le problème des enfants seulement, des enfants soldats qui sont exploités ici là par les groupes armés, des problèmes d'exploitation sexuelle, etc. Pourriez-vous nous dire, on peut faire le point là-dessus, où en êtes-vous aujourd'hui? Et quel mécanisme de protection appliquez-vous, en tout cas pouvez-vous appliquer dans cette région?
Okay. Premièrement, vous devez savoir qu'on a la stratégie nationale sur la violence basée sur le genre depuis qui a été révisée en 2020. Et en plus, nous avons la loi de 2006 sur la violence faite à la femme qui a été modifiée en 2022 où on a ajouté plusieurs aspects sur la violence faite à la femme. De l'autre côté, en RDC, nous, on a le numéro vert qui est le 122. Pour tout ce qui est violence faite à la femme, les femmes doivent appeler et dénoncer. Le problème qu'on a, c'est dans la dénonciation parce qu'ils ont peur de stigmates. Les femmes doivent appeler, elles dénoncent directement. Ils ont une prise en charge gratuite de santé psychologique et une prise en charge juridique. On a aussi un numéro vert pour tout ce qui est traite des personnes, qui est la 129. Où ils dénoncent aussi et directement on les prend en charge. Et avec la traite de personnes, nous travaillons sur 4 P. Le premier P qui est la prévention. On fait la sensibilisation pour tout ce qui est traite des personnes et surtout dans l'est du pays où on se retrouve beaucoup avec tout ce qui est trafic sexuel des femmes. Et aussi, nous travaillons avec tout ce qui est poursuite des bourreaux. On travaille avec la police, avec différents services de sécurité, l'ANR et tout ça et tout. Et on a aussi la protection des victimes, où quand on est au courant de ce qui se passe, on les prend en charge. On les prend en charge, on les place dans un endroit sécuritaire et on leur donne des kits pour pouvoir s'en sortir après, parce que souvent, ce sont les jeunes ou les femmes, souvent, elles sont non seulement des victimes, mais elles sont aussi des bourreaux. Alors, il faut les former sur la traite des personnes. Et pour les jeunes qui ont moins de 18 ans, on fait tout pour qu'ils puissent aller à l'école. Mais nous avons aussi le programme de désarmement PTDRS de la présidence et du gouvernement, où on va chercher les enfants qui sont pris par les milices. Il y a aussi le GTTC, où nous avons plusieurs programmes pour pouvoir sortir les enfants par les groupes armés, et on leur donne des kits et on les forme, on les replace dans leur famille. C'est vrai que à l'est du pays, le viol est l'instrument pour pouvoir humilier la femme. C'est l'instrument de guerre qu'on utilise pour humilier la femme, stigmatiser la femme.
Alors, merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup, Chantal Yelou. Restez avec nous, hein. C'est parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission. Je voudrais qu'on écoute Thérèse Mekombé, qui est juriste au Tchad. Et tout de suite après, on ira au Burkina Faso pour écouter Charles Bazema. D'abord, Thérèse Mekombé.
Il faudrait que les auteurs soient punis à la hauteur des crimes qu'ils commettent sur les femmes. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que nous, femmes, nous, les défenseurs des droits de la femme, nous pouvions réfléchir à des stratégies plus percutantes encore de lutte pour pouvoir sortir de ce cycle de violence que subissent les femmes. Parce que je pense que, quel que soit le pays ou la région où nous vivons, les femmes vivent pratiquement les mêmes réalités par rapport aux violences qu'elles subissent. Et je proposerais que nous allions aussi vers les hommes, parce qu'il y en a qui, peut-être en sourdine, soutiennent la lutte que nous menons. Créons des alliances aussi avec nos leaders traditionnels et religieux. La plupart des violences que subissent les femmes viennent de nos cultures. Nos gouvernants ont signé, ont ratifié des instruments juridiques de protection de la femme. La mise en œuvre pose problème. Un plaidoyer fort également doit être mené dans nos différents pays. Et cela revient à la première préoccupation que j'avais posée par rapport à l'impunité. Les textes sont là qui sanctionnent, mais l'impunité fait en sorte que les auteurs ne sont pas punis. Il est laissé quelquefois juste un garde à vue et on le retrouve le lendemain se pavanant, narguant même ses victimes, bien narguant les parents de ces victimes. Comment voulez-vous qu'on puisse arrêter ces violences-là tant que ces auteurs-là vont continuer à se promener à l'air libre?
Nous condamnons avec la dernière énergie les meurtres des femmes. Les femmes doivent s'organiser en association et chaque femme doit avoir le courage de dénoncer le comportement de son mari à cette association. Et cette organisation féminine doit s'organiser et poser plainte contre cet homme. D'abord, la responsabilité de ce non-changement vient du fait que les femmes sont mieux. Les femmes ont peur de se prononcer.
Maïmouna Youssoufa, dans votre programme, on dit beaucoup, hein, on le sait, qu'on parle beaucoup d'impunité d'une manière générale, hein, sur ce type de violence dans la plupart des pays. Hein, et est-ce que vous avez dans votre programme finalement des dispositions qui vous permettent de faire un petit peu le pont avec le gouvernement et de vous assurer qu'il n'y ait pas d'impunité pour les auteurs de violences basées sur le genre?
Ok, merci beaucoup Nathalie. Oui, effectivement, nous avons un circuit de référencement qui intègre les services sociaux tels que le service de l'action sociale du ministère des Affaires sociales, le service pour la protection et la promotion des droits des femmes du MINPROF, également les gendarmeries et le commissariat qui existent dans les localités où nous intervenons. Donc nous avons des points focaux dans ces structures vers lesquelles nous orientons les survivantes. Lorsqu'elles désirent voir leurs droits respectés, on les envoie vers le commissariat où elles peuvent porter plainte. Donc, nous travaillons vraiment en synergie avec les institutions de l'État pour essayer d'éradiquer ces violences basées sur le genre, quoique ce n'est pas suffisant, parce que comme la présidente intervenante a dit, les femmes ne dénoncent pas toujours leur bourreau, malheureusement.
Pour terminer très rapidement, Maïmouna, en 30 secondes, au niveau de la formation des forces de l'ordre pour éviter les violences basées sur le genre, parce qu'on sait que certains militaires aussi violentent des femmes.
Oui, souvent, les militaires
très rapidement.
Sont souvent sont souvent auteurs de ces violences-là. Donc, il y a des formations qui sont spécifiques à ces hommes en tenue que nous menons. Et nous les sensibilisons également sur le fait de prendre en considération le pouvoir différentiel qui existe entre eux et les populations pour ne pas commettre les violences basées sur le genre. Parce que leur rôle, c'est de protéger les populations et non d'abuser d'eux.
Merci beaucoup Chantal Yelou. Je rappelle que vous êtes conseillère spéciale du président de la République démocratique du Congo en charge de la jeunesse, des VBG et de la traite des personnes. Merci beaucoup à Maïmouna Youssoufa, humanitaire intervenant dans la prise en charge des survivantes des VBG au Cameroun. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, c'était Max Koyaweda. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage. Thank you.